RMC, le Super Football Show, l'After Foot, Nicolas Villas.
Avec Daniel Riolo, Jérôme Roten, Simone Rovera et Philippe Auclair, bien entendu, depuis l'Angleterre. On vous rappelle les résultats, les huitièmes de finale aller du soir de Ligue des Champions. City est allé s'imposer 4-0 à Bâle, 2-2 entre la Juve et Tottenham. On a Momo, supporter de la Juve, qui nous a appelé au 32-16. Et il était au match, Momo. Salut, Momo.
Ouais, salut, bonsoir. Je suis devant le stade, je suis en train de sortir.
Bon, alors t'as trouvé ça comment? Déçu, j'imagine, ce soir. Ton équipe menait 2-0. Ouais.
Super déçu déjà du résultat, du scénario, du déroulé du match. On commence, franchement, c'était inespéré. 9 minutes de jeu, 2-0, ça déroule. La Juve qui met 2-0 comme ça, on n'a pas l'habitude. Et derrière, ça commence à fermer un peu le jeu. Ça joue pas très bien. Enfin, là, la défense, honnêtement, moi, j'ai pas grand-chose à dire sur la défense. Mais après, milieu de terrain, Kedira qui balance le ballon dès qu'il a. Higuain, je sais pas si on a entendu à la télé, mais bon, il se faisait limite siffler par les supporters de la Juve. Même s'il a mis deux buts, derrière le mec, franchement, il y en a marre. Le mec, le troisième pénalty, je savais qu'il allait le louper. Et le mec, dans les grands matchs, dans les grands moments, au moment décisif, il est jamais là. Alors, il a mis deux buts. On va dire, on a un juste.
Jamais là, mais deux buts quand même.
Est vraiment très très beau. Le péno, après, c'est vrai que le.
Non mais le mec, on le voit sur sa tête, on le voit. Enfin, moi j'ai pas vu sa tête parce que j'étais derrière. Mais sa course d'élan, tu le sens qu'il va y aller, qu'il va pas marquer.
Après, franchement, quand t'as une équipe qui joue comme ça, avoir un avant-centre comme Higuain, ça sert à rien.
Mais après, de toute façon, après, honnêtement, j'ai entendu tout à l'heure vite fait à la fin quand vous parliez de Daniel, tu disais que comment il joue, c'est fini, c'est dépassé. Mais en même temps. C'est quoi les armes offensives? Il va faire rentrer qui sur le terrain? Moi, je regardais le banc. Il va faire rentrer qui? Dybala, je sais pas dans quel état de forme il est. En attaquant, il va faire rentrer qui? Il y a personne.
Ah ben c'est sûr que le banc de la Juve ce soir était affreux. Quand tu n'as pas Dybala, t'as pas Cuadrado et t'as même Lichtsteiner, qui c'est un joueur défensif mais qui peut être offensif, il n'est pas là. T'avais pas d'option. Les joueurs plus offensifs que t'avais sur le banc, c'était Asamoah. Donc imaginez
oui, qui en plus un genre de couloir en plus.
Mais bien sûr,
mais de toute façon après
Mandzukic, il s'est fait mal aussi. Mandzukic, je crois, au moment où on voyait
il a joué au moins 15 minutes avec une blessure, et après il est sorti parce qu'il veut jamais sortir. Donc c'est vrai que c'était les pires scénarios possibles. Et dans les matchs, toutes les choses qui pouvaient aller mal sont allées mal, et la Juve a raté sa gestion du match.
Tu sais, le truc, c'est que quand tu regardes l'équipe de la Juve, je suis désolé, on me dit c'est pas une équipe offensive, mais tu prends les joueurs, tu prends Costa, tu prends Higuain, Mandzukic, Bernardeschi, Pjanic, c'est quand même des bons joueurs de ballon, plus Alexandro sur le côté gauche.
Donc ils sont capables.
Ils sont capables.
Mais ce que
vous comprenez pas, c'est que ça me paraît logique. Toi, c'est pas la première fois que tu regardes un match de foot que une équipe marque deux buts en bout de 10 minutes. Encore plus quand c'est une équipe qui est habituée à le faire.
Tu vas pas te mettre dans tes 30 mètres.
Mais tu peux défendre.
Et puis quand tu le fais, tu mènes 2-0, tu te replies. Tu vois que t'es en train de te faire manger.
Mais là, tu peux plus derrière.
Tu peux plus inverser la tendance.
Tu peux plus faire autre chose, tu peux plus monter ton bloc, tu peux plus varier ta tactique. Mais tu peux plus, t'appuies pas sur le bouton.
Le bouton entre la 10e et la 90e, il y a un moment tu vas le retrouver.
Mais c'est
le bouton,
pas entre la 10e parce que le.
À la 15e, ils ont arrêté de jouer.
Mais non,
ils arrêtent de jouer.
Mais je te dis pas qu'ils arrêtent.
C'était quoi le schéma tactique? C'était quoi? Vous de la télé, vous avez peut-être mieux vu. C'était quoi le schéma tactique de la Juve offensivement? Il n'y en avait pas.
Mais je ne sais pas, c'est de défendre. C'est de
Tu suis la Juve, tu vois les matchs de la Juve quand même.
Bien sûr.
Donc t'es surpris ce soir. Comment?
Ouais, franchement, ouais, je suis surpris parce que ce soir, il y avait rien.
Mais d'habitude, moi je suis désolé.
C'est très similaire. Momo, c'est très similaire au match fait à Naples, mais c'est un pire. Seulement, face à Naples, ils ont géré, ils ont été capables de gérer une équipe qui est même meilleure balle au pied que Tottenham, mais
qui?
Naples.
Qu'est-ce qui peut te permettre de dire ça, en fait? Que Naples est meilleur que Tottenham.
Non, mais ça du tout, on peut dire
le pied. Non,
le pied, non, c'est pas du ballon.
Que ça soit une. Meilleur que Tottenham?
Non, mais que Naples soit une très bonne équipe.
Meilleur que Tottenham, Daniel, après.
C'est des gros matchs.
C'est des réalités différentes. C'est peut-être meilleur après.
Oui, enfin, peut-être.
Si on fait pas, on va analyser Naples face à City, qui c'était bien. Après,
bah, oui, oui, non, non.
Mais ça, non, mais c'est dur de comparer, ça, on est d'accord.
Tu peux pas comparer. Non, mais après, il y a la qualité de l'adversaire. La qualité de l'adversaire fait que c'est sûr que quand tu laisses la possibilité à des joueurs comme Tottenham, c'est-à-dire Eriksen d'être face au jeu, Lamela d'être face au jeu, Ali quand il prend le ballon aussi de se retrouver à pouvoir trouver Harry Kane, dans la.
Kane, il se baladait où il voulait.
Non, mais
il se baladait où il voulait.
Non, mais ça, la question, elle est plus claire. Et qu'on soit étonné sur la façon de défendre qui a pas été bonne de la Juve, là je suis d'accord. Mais après le plan de jeu de la Juve, dire ce plan de jeu ne peut pas gagner. Quand tu dis ça, Daniel, c'est fini.
Ah
c'est
si,
ce plan de jeu, il peut gagner.
Ah bah oui.
Mais oui, tu peux gagner. Alors après,
tu fais chez tout le monde. Mais c'est non, pas mais envie.
Que toi,
chacun
t'éclates
est libre
pas.
De faire. Non mais chacun est libre de faire du plan de jeu de Tottenham.
Ah mais moi je préfère Tottenham.
Et ben alors pourquoi tu commences pas par dire ça? Ça évite la polémique inutile.
En quoi j'ai jamais dit ça?
C'est marrant, on en revient à ce qu'on disait au départ. Tu préfères regarder et tu préfères l'ambition affichée par Tottenham.
Mais je suis d'accord.
Tu préfères ce
qu'ils
font.
Mais après,
tu préfères si t'es joueur, toi qui dis tout le temps, moi je suis joueur, moi j'ai fait, toi t'as pas fait. Toi t'es joueur demain.
Non, j'ai pas dit ça déjà. Arrête de me dire ça parce qu'à chaque fois
c'est pas. T'es joueur demain. T'es joueur hier ou même demain tu redeviens joueur.
Non, ça va être dur. Ça va être dur, mais on va essayer de me transformer.
Sur ce que t'as vu là, tu préfères être dans quelle équipe? Tu vas t'éclater dans quelle équipe?
Mais je pense
avec Tottenham, tu vas t'amuser.
Oui, mais je pense Juve, un joueur comme
Douglas Costa, il se fait chier.
Mais attends, mais ce que je veux dire, un joueur de ballon comme Pjanic, dans ce système-là, il peut aussi s'éclater parce que c'est lui le premier relanceur. Si le ballon ressort bien, s'il défend bien pour mieux contrer les attaques rapides, tu peux t'éclater aussi quand t'es joueur de foot. Sauf que là, le problème de la Juve, j'en reviens à cette occasion d'Higuain pour le 3-0. Jusqu'à cette occasion-là, ils étaient très bien. Derrière, le problème, c'est qu'ils ont laissé trop d'espace, ils ont mal défendu et que même pour ressortir le ballon, ils ressortaient plus rien du tout. Pjanic, il a pu toucher un ballon.
Merci Momo qui nous a appelé. Momo, bon
salut,
retour Momo. À toi, Momo.
Ouais. Ouais, merci. Bonne soirée.
Bonne soirée, ouais. Merci Momo.
Salut, Momo.
Avec
en fait, tu ne ressors plus rien parce que t'es tellement bas que tu ne peux même plus accompagner les actions. T'es tellement bas, tu souffres tellement que Higuain il joue 6.
Oui, oui.
Tu ne peux même plus le faire. C'est
très compliqué.
Et en plus, tu sais quoi? Tu n'as même pas les joueurs rapides pour jouer en contre. Higuain.
Douglas Costa, tu vois.
T'as Douglas Costa, Bernardeschi, c'était les deux.
Mandzukic est pas très rapide.
Non, mais bien sûr.
Higuain, bon, il a une caravane. Attends, ça fait déjà 2 sur les 4.
On a dit les plus belles occasions sur la
rencontre. Et c'est quand même
c'est quand même réducteur, Daniel, ce que tu me dis. Tu me dis alors là tu joues bas, très bas dans tes 30 mètres, donc t'es obligé d'avoir des coureurs à pied devant ou des sprinteurs.
Si tu veux jouer en contre, c'est pas ça le football.
Mais alors tu peux aller vite avec le ballon. Excuse-moi, quand tu joues à travers les courses.
Quand tu joues si bas, je t'assure qu'il faut quand même avoir de la vitesse pour contrer.
T'as un joueur qui donne de la vitesse ballon
ces dernières années, putain, ça filait. Là, Higuain, quand tu remontes le ballon.
Que ça soit Higuain, que ça soit Pjanic.
Philippe qui est avec nous. Philippe.
Oui.
Il y avait une question sur le hashtag RMC Live, notamment concernant Tottenham cette fois-ci. Il y a pas mal de supporters qui sont étonnés de pas avoir vu Son titulaire au coup d'envoi.
Non, il était tout simplement. D'ailleurs, de toute façon, je crois que Lamela a fait un très bon match.
Il a eu beaucoup de mal à rentrer dans la partie, Lamela. Au début,
il a monté en intensité. Il a fait exactement ce que voulait de lui. Je crois tout simplement que c'est un problème de condition physique de la part de Son. Faut pas oublier quand même que Tottenham s'est tapé non seulement le match à Liverpool, mais également un match à rejouer de cup. Aussi. Et puis le derby contre Arsenal. J'allais dire que même le derby contre Arsenal, à la limite, ça les a moins fatigués, tu vois, vu la physionomie du jeu. Mais ils ont quand même joué 3 matchs en l'espace d'une semaine, donc il est normal qu'ils fassent tourner. Et Son fait partie de ces joueurs qui peuvent tourner de la même façon que les latéraux tournent régulièrement. J'ai été même surpris de ne pas voir Trippier prendre la place de Serge Aurier,
moi, c'est le grand mystère. Pourquoi Trippier joue pas?
Il joue normalement. Là, il a pas joué ce soir. Je pense également c'est la volonté de faire tourner. Je suis pas certain qu'on revoie Serge Aurier au match retour à Wembley.
Ah, parce que tu l'as pas trouvé bon?
Ah non, mais parce que moi, si je le dis, je me fais insulter.
Il a apporté des choses en avant. Mais chaque fois que le ballon allait sur son couloir, chaque fois que le ballon était sur son côté, moi j'avais les jetons.
Aujourd'hui, les deux latéraux de Tottenham, c'est une catastrophe. Davis est d'un côté et Aurier de l'autre. Franchement, Davis s'est un petit peu repris en deuxième mi-temps. Aurier, pas du tout. Aurier a toujours été, et le seul qui était dangereux du côté de la Juve en deuxième mi-temps, c'était Douglas Costa. Mais quand tu laisses opportunité.
C'est celui qui a eu l'occasion, quand même.
Non, mais Douglas Costa, dans la façon, dès qu'il touche le ballon, il accélérait. Il débordait. Ouais. Mais forcément, t'as Aurier qui était à 5 mètres, il lui laissait prendre la vitesse.
On a vu une stat de notre producteur ce soir, Arthur Robert. C'est le seul joueur cette saison Ligue des Champions à avoir concédé 2 pénalties. Puis alors, celui de ce soir, il est beau, on peut le dire.
Oh, mais celui contre le Real était pas mal.
Il prend même pas de jaune. C'est là la perf, je pense, sur ce coup-là. Il est vraiment hyper en retard pour le coup.
Il prend pas de jaune, ce qui veut dire qu'il ne sera pas suspendu.
C'est rare, hein.
Ouais. Mais on peut.
Comment le PSG a fait pour le vendre à Tottenham? Il y a un truc en dessous? Il y a quelque chose?
Je l'ai vu faire des matchs de bien meilleure facture avec Tottenham.
Contre Stoke City.
Contre des adversaires peut-être qui ne sont pas du même niveau. Oui. Mais cela dit, le nombre de fois où il a été sauvé, soit par l'excellent Davinson Sanchez, qui est franchement un joueur que plus je le vois, plus je l'aime.
Ah, ouais.
Et également par le Superman de cette rencontre, on en parlait dans le grand after. Moi, je pensais que c'était le duel qui allait définir le match. C'était Pjanic contre Dembélé. Moussa Dembélé est grand.
Et il a été monstrueux contre Arsenal déjà.
Mais il est en ce moment, il est dans la forme de sa vie.
En plus, il a une allure, c'est la classe, vraiment.
Ouais, c'est un beau
joueur. Et il perce les lignes. Il a énormément de présence physique. Mmh. Alors, si jamais les stats valent ce qu'elles valent, mais il est premier dans toutes les catégories ce soir. C'est pas compliqué. Nombre de passes, nombre de touches de ballon, nombre d'interceptions, nombre de dribbles, nombre de tacles. Il est au top. Des 22 acteurs, c'est assez extraordinaire.
Ouais, très bon joueur de foot.
Et il disait, il expliquait simplement après la victoire contre Arsenal, il disait jouer dans cette équipe de Tottenham, c'est facile. On est tous en excellente condition physique. On est tous en accord avec le manager. On partage tous la même philosophie. C'est un mec qui est bien dans ses pompes en ce moment, et je pense que c'est une équipe qui est bien dans ses pompes. Et une équipe qui ne serait pas bien dans ses pompes n'aurait jamais pu réagir comme celle-là réagit à 2-0. Et c'est pas une équipe parfaite. On a parlé des latéraux. Il y a eu par moments des imprécisions, tout ce qu'on voudra.
Mais il y a une
volonté, il y a un collectif, il y a de la pensée aussi. Simplement, t'as un entraîneur, Pochettino, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est un tout bon. Je veux dire, c'est plus un secret maintenant, hein.
Parce qu'il s'adapte quand même, avec ce début de match très compliqué. Le replacement d'Eriksen qui avait commencé plus ou moins sur le côté droit.
Ce qui était un peu bizarre d'ailleurs.
À revenir dans l'axe, au côté
de... Il a souvent joué sur le côté droit.
Comment?
Il a souvent joué sur le côté droit. Ouais, cette saison. Mais tu as tout à fait raison, c'est des petits trucs de
coach. Oui, parce que c'est bizarre de le mettre là, tu vois.
Oui, c'est parce que à l'arrivée, le repositionnement d'Eriksen dans l'axe a fait que Dembélé a été meilleur dans la récupération du ballon, dans l'utilisation du ballon, parce que tu regardes Dembélé qui récupère ses ballons, qui ratisse tout au milieu, qui en perd pas, et comme tu dis, qui est sur toutes les stats au-dessus des autres, il arrive à casser les lignes, à trouver ses petites passes avec Eriksen et Ali. Et Eriksen, quand tu le mets face au jeu, mais attends, il t'a délivré bon nombre de caviar. Il y en a
c'est une merveille de joueur.
Qui met,
franchement, c'est magnifique. Déjà, rien que le coup franc, hein, il la met là, à côté là, alors que Buffon, il attend dessus du mur.
Quand tu dis il la met là, ça me fait rire parce que il la met là, oui, absolument, parce que il la met là, tu as vu la discussion avec la Mela juste avant le coup franc, et t'as la Mela qui lui dit, dis donc, parce qu'il connaît bien Buffon, qui lui dit, sur ce type de coup franc là, tu vois ce que tu fais, tu vas juste, tu vas sur le côté du mur et tu vas à ras de terre. Il a donné l'instruction et Eriksen a dit ok, pas de problème. C'est pour ça que tu vois la réaction après, tous les deux. Donc ils sont contents d'avoir gagné, mais ils ont joué un coup absolument génial. De la même façon, une chose qu'on a peut-être pas remarqué, je ne l'avais pas remarqué, mais c'est un ami gardien et analyste des gardiens qui me l'a dit, sur le penalty de Higuain, c'est celui qui met sur la transversale. Regardez à nouveau comment Loris bluffe complètement Higuain et lui fait louper son penalty en devinant où il va frapper. Et il oblige le Higuain à viser plus haut parce que c'est le langage corporel. Et quand vous le reverrez, vous verrez que c'est un coup de bluff fantastique de la part de Loris.
De toute façon, c'est pas étonnant. Hein. Et un penalty, c'est un geste technique, mais c'est surtout le jeu avec le gardien. Et le gardien, il doit jouer aussi avec l'attaquant. Et le bluff, déjà, il a failli marcher.
Est-ce que sur le premier, comme Loris passe tout près, Higuain s'est dit, il faut que je sois encore meilleur, c'est en fait, me choper.
En fait, le truc, c'est que
milieu.
Non, mais il aurait dû faire exactement la même chose parce que le premier penalty. Même si Lloris, il part pas avant. Tu le vois sur le pénal, et c'est pour ça qu'il ne le sort pas, le pénalty Higuain. Il part à la frappe, donc elle est tellement forte qu'il a, il a juste et la là main, il fait la même chose dessus, mais il part pas avant la frappe, donc il est sur la trajectoire quand il tape sur la barre. Higuain là franchement c'est étonnant de sa part, parce que lui qui a beaucoup d'expérience, qui a l'impression qu'il s'est fait dessus.
Une petite stat, mais celle-là est amusante. Harry Kane, c'est 9 buts, il a joué 9 matchs de Ligue des Champions. Ok, il a marqué 9 buts. Aucun joueur n'a jamais réalisé ça dans l'histoire de la compétition.
Ouais. Ouais. Il aurait pu mettre un doublé avec cette tête ratée.
Oui, parce qu'ils ont aussi. Mais Buffon fait bien, lit bien le coup. Par contre, Buffon est bon.
Mais là, il fait une erreur de la tête. Ouais.
Messieurs, on accueille Raphaël, admiratif et supporter du beau jeu. Salut Raphaël, qui nous a appelé au 32-16.
Et bonsoir, messieurs. Bonsoir.
Raphaël. Alors, bonsoir, toi Raphaël. Qui aimes le beau jeu, Raphaël, qu'as-tu pensé de ce 2-2 entre la Juve et Tottenham?
Alors, c'est une très drôle entame de match de la part de la Juventus. Je m'attendais à ce début de match parce que la Juve voulait imposer toute son expérience face à une équipe de Tottenham, je pense, qui a été déjà qui n'a pas d'expérience et qui a été surprise par l'intensité qui est mise par la Juventus. Et puis moi, je suis très surpris par la réaction de Tottenham. Philippe, je ne sais pas si Tottenham a déjà eu affaire à ce genre de match cette saison, mais en tout cas, au niveau mental, je pense que 95% des équipes auraient lâché le match à la 12e. Hein. Mais franchement...
Mais ils ont fait ça à Liverpool. Hein. Ils ont trouvé des ressources incroyables et ils sont revenus.
C'est un groupe, je pense, qui est né. Le milieu de terrain Dembélé d'hier, ils ont de suite compris que s'ils jouaient comme ça, ils allaient se prendre encore 2-3 buts. Mais le tournant du match, c'est bien sûr le pénalty. Serge Aurier a failli coûter la victoire à son équipe.
Arrêtez cet acharnement sur Serge Aurier.
Mais il fait une faute évitable quand même. Il aurait pu l'accompagner tranquillement en sortie de but. Il aurait pu mieux défendre sur ce coup. C'est ma vision. Après, Harry Kane plante le but qui est très dur à mettre quand même, parce que Buffon, il sort le plus vite possible, mais Kane sait déjà ce qu'il va faire, et heureusement qu'il a une très bonne conduite de balle pour éviter de trop pousser le ballon. Et puis la Juventus, on voit que quand tous les meilleurs joueurs offensifs sont forfaits, eh bien il n'y a pas de profondeur de banc, et ce soir on a vu qu'au final jouer 10 minutes sur un match, et ce n'est pas gagné d'avance. Et gros match aussi du Hugo Lloris dans les buts de Tottenham, qui est très rassurant.
Il faut le souligner.
Je pensais que pour remplacer Buffon, Hugo Lloris était la bonne personne.
Ah oui, carrément. Tiens, Simone, ça dirait Hugo Lloris, toi
Je pense que si ce soir il y avait celui qui a été le meilleur gardien de la Juve cette saison, les résultats auraient été différents. Et ils ont déjà un très bon gardien numéro 2. Mais bon, ça.
Non, mais attends, et puis on va pas enfoncer Buffon parce qu'il n'a pas été bon ce soir. Ce que je veux dire, ça arrive.
Mais il faut penser à l'après quand même.
Ce soir, si tu lui donnes une note, tu lui donnes quoi? 2, 3?
Oui, oui. Il a raté son match. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Buffon comme ça.
Ce qui est aussi intéressant, et je parle là dans une perspective qui dépasse celle de Tottenham, c'est que Hugo Lloris est le capitaine de cette équipe de Tottenham. Et il est en train de devenir un capitaine historique. Il est un de ces joueurs qui s'inscrivent dans la durée.
Et c'est l'un des relais d'ailleurs de Pochettino aussi.
Ah mais complètement, ah bah, complètement. Et il est
non mais au-delà de ça, au niveau, c'est un peu ce qui était. D'ailleurs, c'est dans le reportage qu'on a vu qui avait été fait par Nico Lansalo sur SFR Sport. Il est ce que Pochettino était au Paris Saint-Germain. Pochettino, c'était l'adjoint de Gasset, qui était l'adjoint. Oui. Et Lloris, c'est un peu l'adjoint de l'adjoint aussi.
Oui, absolument. Et il a le poids, l'influence qu'il a dans le vestiaire. Et moi, ce que j'aimerais voir, c'est un Hugo Lloris qui a la même influence sur l'équipe de France, et qui soit capable d'avoir cette même cohésion. Et il est complètement, il est en effet, comme tu dis, il est complètement impliqué dans le projet. Enfin, c'est son club, c'est son. Il y a un truc autour de ce club qui est tellement séduisant, malgré tous ses défauts, une équipe qui est pas grandiose, je veux dire, enfin, qui est pas grandiose. Vous comparez la masse salariale de Tottenham à celle des équipes à qui ils sont en train de donner des leçons.
Non, c'est en dessous.
C'est largement en dessous, et c'est, ça fait du bien, c'est du vrai foot. C'est du vrai foot. Et parlant d'équipe nationale, il y a un copain qui vient de me dire, tiens, imaginez, parce que nous on a la Belgique dans notre groupe, l'Angleterre, hein. Et tu imagines le milieu de terrain avec Dembélé, De Bruyne et Hazard.
On a commencé à parler hier soir, Philippe, on parlait de De Bruyne. Je disais, si l'entraîneur arrive à bien mettre en place le puzzle de tous ces mecs-là,
Ça se voit, les Belges, d'ailleurs, ces derniers temps.
Mais... Il y a bien un moment où on va réussir à enfiler
les pièces.
Et bien, puisque vous parlez de De Bruyne, dans quelques instants, on en parle. Supporter de City, supporter du FC Bâle. On vous attend au 32-16, puisque Manchester City s'est imposé 4-0 à Bâle ce soir, 8e de finale aller de la Ligue des Champions. La Juve a fait match nul de 2 face à Tottenham. Merci, Simone, d'avoir été avec nous.
Merci, Simone.
Merci d'écouter. Bon. Merci, Raphaël, bien entendu, qui nous a appelé au 32-16
également.
C'est pas
son année, putain. Bon. Il va perdre la Juve.
La Juve,
il n'y aura pas de mondial.
Il y a qui derrière?
Europa League. Non, il y a la Roma encore. Voilà, ils vont passer la Roma, non quand
peut-être
même.
Face au Shakhtar.
Ah, quand même, merde.
Si c'est suicide comme a fait la Juve ce soir. Non.
Bon, bah.
Il est dégoûté.
Bah, bonne vacances. Rendez-vous au mois de septembre.
Milan en Ligue Europa. Voilà, Arthur, qui joue le Dogoretz.
Ouais, bon, Milan, on va à fond dans la Ligue Europa.
Là-bas, c'est chiant, effectivement. Voilà, on vous attend donc au 32-16, supporter du FC Bâle, supporter de Manchester City. Puis on va revenir, bien entendu, on va déjà se plonger dans le match du Paris Saint-Germain qui jouera à Madrid demain. Allez, à tout de suite au 32-16.
On va pas dormir.
RMC, le super football show, l'afterfoot, Nicolas Villas.
Avec Jérôme Roten et Daniel Riolo et vous sur le hashtag RMC Live et au 32-16, bien entendu. Sachez que... En huitième de finale, allez, la Ligue des Champions, ça commence ce soir. On est à 24 heures du match entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. On va en parler dans quelques instants. Manchester City, ce soir, s'est imposé 4-0 à Bâle. 2-2 entre la Juve et Tottenham. La Juve qui menait 2-0 après un doublé d'Higuain, qui a raté un péno quand même, hein, alors qu'il y avait 2-1 pour la Juve, puisque Kane avait marqué entre-temps. Et Eriksen a marqué l'autre but de Tottenham. On va se plonger dans le match entre le FC Bâle et Manchester City. Philippe Auclair est toujours avec nous, bien entendu, également. Doublé de Gundogan, Bernardo Silva a marqué, Sergio Aguero lui aussi. Ça a été facile quand même pour City ce soir, hein,
Philippe. Est-ce que je peux te faire une confession, Nicolas?
Tu sais, j'ai pas vu.
Enfin, quand je dis j'ai pas vu.
Si, t'avais
quand j'ai vu, j'avais les deux écrans, j'avais la vision stéréo. Mais au bout de, je t'avouerai qu'au bout de quelques minutes,
t'as vite compris quoi.
C'est-à-dire que à la 23e minute, lorsque Sergio Aguero met le troisième but, je n'ai plus trop suivi le match qui se passait à Bâle.
C'était quand même très prévisible. Jérôme l'avait dit que à Bâle facilement City ferait son trou, quoi.
Oui.
On
l'avait vu venir celle-là. Elle arrivait. Mais il y a une chose quand même qui m'a épaté du côté de City, c'est que qu'il soit content, à 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, que l'adversaire soit Bâle, que l'adversaire soit Liverpool, que l'adversaire soit le Barça, j'imagine un jour, ils joueront de la même façon, c'est-à-dire qu'ils joueront avec la même concentration. Ils joueront avec le même appétit de regagner le ballon. Je jetais un coup d'œil de temps à autre à la 80e minute. Bah oui, ils se bagarraient toujours pour récupérer le ballon aussi haut que possible. C'est une équipe qui fonctionne magnifiquement. En plus de ça, ce soir, quand tu as le retour de Leroy Sané et David Silva, ça fait quand même beaucoup de bien. Ça veut dire que de nouveau l'effectif est quasiment à son top. Il manque qui en fait maintenant? Il va manquer Mendy peut-être, et c'est tout. Et Jesus. Mendy et Jesus.
Il faudrait quand même signaler que ce soir, dans cette équipe de Bâle en défense,
ouais, il y avait Léo Lacroix.
Ouais, l'ancien de Saint-Etienne.
Et puis en plus, qui n'est même pas situé là.
Pas le skieur, la défense, mais
qui est à la place de Xhaka.
C'est quand même dingue. Tu as le mec à Saint-Etienne.
Ah bah, il se retrouve en 8e de finale de Ligue des Champions.
En 8e de Ligue des Champions, il voit City débarquer. Il a pris un autobus dans la gueule, quoi.
Le pauvre.
Mais c'est ouf, quoi.
Non, il y en a un surtout qui a été. Alors, c'est le gardien, Vaclik, là. Mais il a été terrible hein, sur les buts. Alors même si c'est vrai que City a joué ou quoi, mais il y a eu de... Tiens, on va accueillir, tiens,
Il y a eu des meilleures équipes de Bâle aussi.
Non, mais si,
après, il a été catastrophique ce soir.
City, c'est extraordinaire.
Après, il y a des faillites individuelles, ça, sans aucun doute. Ouais, le gardien, mais quand même, c'est
Bâle. Et Pep a dit un truc très intéressant. Excuse-moi, Jérôme, il a dit un truc très intéressant. Il a dit un des problèmes du FC Bâle, qui est une équipe bien meilleure que ce qu'on a vu ce soir, c'est le fait que eux ont une trêve hivernale trop longue.
Ouais.
Et qu'ils sont arrivés, ils étaient complètement à court de compétition. Ouais. T'imagines, t'es à court de compétition face à une équipe comme Manchester City, bah tu bois la tasse.
Non, mais et puis surtout quand tu joues City ou en Ligue des Champions, quand t'es le petit, il faut être réaliste, il faut être efficace. Les premières occasions, faut les mettre pour au moins espérer.
Ils en ont eu.
Et les deux premières, c'est Bâle qui les a eues. Il y a eu ce face à face quand l'attaquant là, Oberlin,
Oberlin,
il part devant Ederson et il doit le dribbler pour aller marquer dans le but vide. ils se précipitent. Derrière, il y en a encore une qui est limite. Et puis, bah, dès qu'ils ont pris le premier but, c'est...
On va accueillir Guillaume, qui est supporter du FC Bâle et qui nous a appelé au 32-16. Supporter de la Suisse également, Guillaume. Salut, Guillaume.
Salut, bonsoir tout le monde.
Salut, Guillaume.
Bonsoir, Sophie.
Salut Guillaume.
Alors, bonsoir, Guillaume.
T'es très remonté ce soir, toi, Guillaume.
Ah, je suis énervé. Je peux pas être déçu parce que dès le tirage, de toute façon, je suis déçu. On prend Manchester City, donc à un moment donné, tu sais que t'as rien à perdre. T'y vas, t'es hivernal ou pas. Le fait que t'es plus ton équipe que t'avais il y a 3 ans ou 4 ans quand t'as été dans la demi-finale de l'UEFA, tu t'en fous. À un moment donné, on met le pied, on monte, on va les chercher. Même si c'est Manchester City, ils sont favoris pour la Ligue des Champions. T'as rien à perdre. Mets tes occasions, t'en as 3 dans le match, il faut les mettre. Tu mets la première au moins, tu mènes 1-0, tu fais un café Rennes à Lyon, tu mets 1-0, tu défends, tu mets le bus, tu mets le stade, les supporters. À un moment donné, je suis énervé ce soir. Je peux pas être déçu parce que je savais qu'il y avait 3% de chance qu'on se qualifie. Je suis énervé de la façon dont on a joué. C'est une catastrophe. On n'a rien mis dedans. Alors évidemment, dans les buts, on a plus d'hommes comme à l'époque. Bon, pas de soucis, mais à un moment donné... faut pas le laisser non plus, faut pas le laisser tout seul, le gardien, un gardien de but, si c'est des pénalties à chaque fois, Aguero, quand il fait sa frappe, il est tout seul. Il a été laissé tout seul. La défense, on met 3 mecs derrière, il y en a pas un qui prend au marquage. C'est une catastrophe. J'espérais qu'il me fasse un beau cadeau d'anniversaire vu que c'est demain. Bah, je suis déçu ce soir. Putain, je suis énervé.
Ah oui, t'as l'air en tout cas. Ouais. Bah après, c'est difficile. Mais Guillaume, c'est difficile de se relever quand tu prends 3 buts en 25 minutes.
Mais il faut pas les prendre. Tu peux pas les prendre.
C'est sûr, mais c'est City quoi.
Tu peux pas rentrer dans le match. Si on rentre dans le match comme on est rentré, on aurait dû en prendre 5. C'est Manchester City en face. C'est les favoris pour la Ligue des Champions, comme le dit M. Auclair depuis le début de la saison. C'est une des plus belles équipes qu'il a vues depuis pas mal d'années dans le championnat anglais, qui est un des meilleurs du monde. Donc à un moment donné, il faut leur rentrer dedans. C'est un match de Coupe de France, on va dire. Il faut leur rentrer dedans.
Guillaume, franchement, c'est pas. Il y a beaucoup d'équipes qui essayent de le faire. C'est vraiment pas simple de leur rentrer dedans.
Je sais, la trêve hivernale chez nous en plus aide pas, c'est évident. Mais il y a autre chose à faire. Là, le FC Bâle n'était pas à son niveau ce soir. Je veux dire, même.
Après, tu sais, Guillaume, il le disait Benoît Boutron tout à l'heure. Au final, c'est vrai que City sur les 3 premières occasions, ça a fait but. Hein. C'est-à-dire, c'est pas comme s'ils avaient assailli. Ils ont fait 3 tirs. Rentré à chaque fois. Quoi.
Mais c'est la différence entre une très grande équipe une équipe qui est en trêve et qui gagne depuis 7 ans son championnat et qui joue les Young Boys, Sion, machin, qui se balade. Et
qui se balade moins cette année, quand même. Là, ça se balade moins cette année. C'est les Young Boys qui sont devant là.
Bien sûr, mais ça fait 7 ans qu'ils se baladent. Et ben, ça nous ferait peut-être du bien justement de plus être premier. Là, ça va nous faire du bien aussi. J'espère qu'on va faire un match retour au moins où on va essayer de tenir le ballon et tenir un match nul. Parce que là, vraiment, je suis très très énervé ce soir.
Guillaume, comme t'es chafouin, l'after va te faire un cadeau. On t'offre un DVD, mon gars. Blade Runner, c'est cadeau, c'est pour toi. Tu raccroches
pas. C'est très gentil.
Et ben voilà, comme ça, tu regarderas ça. Ça va te détendre, ça va te changer des matchs du FC Bâle en Ligue des Champions. Non, tu sais quoi, pour match retour,
ça va détendre.
Ouais, je suis pas sûr. Mais quitte à avoir une boucherie, tu vois, autant que ce soit un bon film. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, c'est clair. Voilà.
Merci Guillaume de nous avoir appelé. À très bientôt.
Bonne soirée à vous.
Salut Guillaume. Et on a Kevin qui est supporter des Citizens.
Il est remonté.
Ils ont pris une bonne tarte quand même.
On a Kevin, il est supporter des Citizens et nous a appelé lui aussi.
Sortir des poules de Ligue des Champions.
Ah oui, ils ont jamais fait mieux que 8e en plus.
En 8e, voilà, tu peux avoir un tirage meilleur que celui-là.
C'est
bon, tu prends City, c'était le pire. Bon, voilà, t'es supporter de Bâle, t'as pas non plus beaucoup à te sentir.
Il est sous le coup de l'émotion encore, notre ami Guillaume. Mmh. Kevin, comment vas-tu?
Bonsoir, ça va, After?
Bah et toi?
Ça va. Ben écoute, 4-0, moi je pense que c'est réglé. À mon avis, il n'y aura pas de remontada.
Comment tu peux être supporter de Manchester City alors qu'il y a 5 ans, personne ne l'était?
Parce qu'en fait, ben, je vais te raconter l'histoire. J'étais fan d'Anelka, c'était mon joueur préféré en 2006-2007.
Ah, puis c'était pas la bonne époque à City. Hein. Ouais.
Ouais, vraiment. Et j'ai Anelka, c'était mon joueur préféré. Et puis je suis tombé amoureux du club. Non, je suis allé les voir au stade 3 fois.
Tout le monde s'en foutait.
Bah, en France, c'était pas un club qui était très
personne ne connaissait. Excuse-moi.
Sauf Kevin.
Il peut y avoir. Mon oncle qui m'avait amené à l'ex-Etihad.
Attends, je voulais savoir s'il faisait partie de ces. Je sais pas, peut-être en même temps, il y a 10 ans, il avait monté Jimmy Grimball, tu vois.
Peut-être qu'il y a des amoureux de Kevin Keegan.
Non, mais regarde, il est à travers un joueur, tu vois, en l'occurrence.
Et j'étais allé voir Manchester City Blackburn en 2007.
Et ben voilà.
Ah, écoute.
Et du coup,
légitimité.
Voilà, exactement. Je disais qu'il n'y aura pas de remontada parce que nous, on a Guardiola et on n'a pas Unai Emery. Donc, il y a eu un fait qui n'est pas anodin. Parce que Guardiola, j'ai vu qu'il était resté 5 minutes à crier sur Fernandinho. Il était fou de rage parce qu'il a pris un carton jaune alors qu'il y avait 4-0 et que City avait 80% de possession de balle. Et une possession, Daniel, qui n'était pas stérile. Donc c'était vraiment une possession.
Oui, c'est rarement stérile avec City. Quoi.
Ouais, c'est clair. Donc j'imagine mal Emery faire pareil avec Neymar ou avec Daniel Alves. Donc
C'est un autre débat, mais oui, je comprends. Oui.
Après, est-ce que Fernandinho est le Neymar du de City?
Si Neymar était
à City, Neymar se prendrait le même traitement que Fernandinho.
On ne sait pas comment il serait géré.
Ce que je veux dire, Jérôme, c'est que Guardiola est au-dessus de ses joueurs. Il n'y a aucun joueur qui est au-dessus de Guardiola. Même Agüero n'est pas au-dessus de Guardiola.
Mais tu sais, le problème, c'est que il y a aucun entraîneur qui est au-dessus de Guardiola. C'est là le problème aussi.
Mais Kevin, il y a un truc que je comprends pas. C'est après Anelka, il est allé à Fenerbahçe. Pourquoi t'es pas supporter de Fenerbahçe?
Non, mais après, j'ai plus suivi Anelka. Enfin, j'étais vraiment amoureux de l'équipe.
Non, parce qu'on peut pas dire qu'il ait marqué l'histoire de City, Anelka.
Ah, si, si.
Il en a mis beaucoup des buts.
Moi, je suis amoureux de City depuis que Kevin Keegan était l'entraîneur.
C'est le Il y avait Antoine Sibierski aussi. Je me souviens.
C'est vrai. Antoine Sibierski à l'époque, c'est vrai.
Et du coup, pour revenir sur le match, les gars, on le sait, ça, on le répète, hein, Guardiola, il sublime ses joueurs. Et contrairement à Paris, comme je disais, il n'y aura pas de remontada.
Tu veux quoi, que Bale fasse une remontada à City?
Non. Mais Bale, je voulais souligner, c'est vraiment très faible.
Oui, non, mais c'est bon, t'inquiète, le match retour, tu vas pouvoir regarder autre chose.
Ouais, c'est clair, je pourrais regarder la Juve.
Ouais, voilà. Tu veux faire autre chose, tranquille.
Il est vénère, Jérôme, parce que j'ai dit c'était avant. Ils ont joué ensemble.
Mais ouais, mais toi, tout de suite pour me contredire.
Mais non, regarde, j'ai
tu fais
connerie.
Ton Daniel Riolo, toi.
Non, mais parce que
il cherche à me contredire.
Je corrige.
Alors que attends, il a faut expliquer un truc.
Je corrige.
Non, attends. Là, je parle à Nico là.
Je corrige.
Donc, après, je te parlerai.
Donc tu vois, je dis un truc.
Mais je te dis, j'ai dit une connerie.
Il me dit, non, c'est bien avant.
Tu avais raison. Mais non, je pensais que c'était avant. Je te dis, c'est une connerie. Je corrige. Hein? Alors Ali il fait 2001-2003, ouais. Et Anelka il fait 2002-2005. Ils font une saison ensemble.
Ali il fait avec c'était Kevin Keegan, ouais, l'entraîneur.
Qu'il aimait beaucoup.
Et tu sais qu'en 2001 j'ai failli signer à City. C'est pour ça que j'ai eu Kevin Keegan. Je suis allé le voir et tout. Et j'ai failli signer.
Pourquoi tu n'y es pas allé, hein?
Parce que j'ai préféré aller à Monaco.
Ah ouais, c'est autre chose au niveau.
Oui, t'as pas fait le mauvais choix.
Ces années-là il a bien fait.
Ouais, ouais, c'est pas faux. Ouais.
Donc sinon juste une précision. Je ne contredis pas moi. Je ne laisse pas parler.
Non. Préfère te couper la parole tout de suite. Regarde, il rigole déjà.
Je ne contredis pas. Moi, je dis les choses.
Si, je te jure, tu
et si possible, le plus proche de la vérité.
Voilà. Je te jure, Daniel, tu ne laisses pas parler.
Le plus proche de la vérité.
Non, mais que je ne laisse pas parler. Oui, parce qu'à un moment, il faut bien trancher et arriver et arriver à exposer.
Tu nous tranches.
À un moment, il faut bien dire la messe.
Ah, la mauvaise foi, sans déconner.
C'est d'ailleurs à Manchester City que Nicolas Anelka a en fait sans doute. Au niveau statistique, la meilleure période de sa carrière.
C'était l'époque du petit oiseau.
Il marque, c'était avec, ça faisait piou-piou.
C'est l'époque de l'oiseau, là.
C'est l'époque de la pré-quenelle. C'est l'époque où il met 37 buts en 89 matchs de championnat pour City, ce qui est quand même pas mal du tout.
C'est le deuxième club pour lequel il a le plus joué après Chelsea.
Exactement. Voilà. Exactement.
Philippe,
oui,
vous voulez rajouter quelque chose?
Non, mais je vais vous écouter avec intérêt. Je vais rester avec vous. Je termine ma tasse de thé et je vais
prépare ton match de demain
tranquillement. Voilà, exactement. Voilà.
Il y a Porto Liverpool demain aussi.
Mais ça c'est un gros match.
Bah, il a annoncé une victoire de Liverpool.
Hein. Ouais,
j'ai dit ça moi.
Offensivement, non, c'est tellement fort. Liverpool.
Oui, c'est costaud. Non, je les sens bien en ce moment Liverpool. Je pense qu'ils vont passer. Je peux pas dire qu'ils vont gagner à Porto. Je t'avouerai que j'ai pas vu suffisamment de Porto cette saison pour pouvoir avoir quelque avis que ce soit. Je serai malhonnête.
Mais comme je disais hier soir, les huitièmes de Ligue des Champions, à chaque fois, tu croises des gens très sympathiques, même entre nous, et les gens viennent. Tu le sens comment? Okay. Tu sais, la phrase. Mais on sent rien du tout.
Ouais, parce que sinon on serait déjà tous riches. On pronostiquerait, tu vois.
Ça, ce serait autre chose. Ça, ce serait les pronostics. Mais sans dire, en fait, on sent rien du tout parce que les équipes arrivent sur des matchs aller-retour avec la particularité énorme que peut représenter un match aller-retour, sortent de leur championnat, là où elles ont leurs repères, jouent contre des équipes qui n'ont pas les mêmes références parce que les championnats ne se valent pas tous. C'est très compliqué de sentir quoi que ce soit.
Non, mais après,
moi, quand j'ai vu la Juve démarrer comme ça contre Tottenham, les 10 premières minutes, même si je vois qu'il y a une réussite qui est maximale, qu'il y a une mise à profit du pressing d'entrée avec deux buts tout de suite, je me dis, merde, est-ce que Tottenham va nous refaire un peu? Après, j'ai repensé, j'ai dit, attends, mais quand même, en poule, même si ça reste que les poules, ce qu'ils ont fait contre le Real, c'est quand même notable, il y avait des vrais progrès, mais t'es un peu bousculé dans ce que tu crois savoir d'un match avant un huitième de Ligue des Champions. C'est une compétition qui est différente, les références sont pas les mêmes.
On est d'accord, mais après, t'as quand même des états de forme. Ce que je veux dire, tu vois des équipes, les grands championnats, je te parle pas de parce que moi, je vais pas.
Ah, ils sont vraiment bien. Bien sûr que
City a les cartonnés balles. Ouais, oui, forcément.
Demain, moi, Porto, je les ai un peu vus. Tu regardes Liverpool aujourd'hui, l'armada offensive qu'ils ont. Tu peux te dire déjà que Liverpool va inquiéter Porto.
Ouais, mais je suis pas sûr que Porto laissera beaucoup d'espace devant.
Mais Porto est une belle équipe avec un bon manager. Exactement.
Et je pense qu'il va mettre en place quelque chose qui va bien. Et Liverpool qui est très en forme. Et Philippe, s'il est encore là, le confirme.
Je le suis.
C'est une équipe qui est en forme là dans le contexte actuel, mais qui cette année a quand même offert souvent des visages assez différents. Donc est-ce qu'ils vont rester sur leur tendance du moment d'un visage qui est quand même plutôt globalement positif, ou est-ce qu'ils vont retrouver des trous d'air et tactiquement il y a des moyens d'emmerder cette équipe. Ouais, et je pense que Conceição est un mec capable de faire un truc.
Et puis de toute façon, pour finir là-dessus, les huitièmes de finale, t'as aussi l'histoire du club qui y joue. Quand un club est habitué à jouer des matchs aller-retour des huitièmes de finale ça joue. Porto, c'est le cas. Porto, c'est même si les joueurs qui vont le faire demain ont pas une expérience folle en Ligue des Champions, l'histoire du club, ça marque quand même tout ce qu'on peut te dire avant
tu sais,
ce match.
T'avais visité d'ailleurs le musée.
Exactement,
du club,
qui est un très beau musée, un très bel endroit. Et en tout cas, ça va être un match très serré, ça sans aucun doute. Même si on imagine que Liverpool est un petit peu au-dessus par rapport au niveau du championnat anglais. Porto reste une équipe surprenante quand même en Ligue des Champions.
Moi c'est le seul truc côté portugais, Conceição, tu le disais tout à l'heure, il aurait certainement un plan et ça va jouer sur le physique pour essayer de calmer un peu les attaquants. Le truc c'est que Porto est dans une situation qui est hyper complexe. Ils ont pas de titre depuis 4 ans. La priorité absolue c'est de gagner un titre. Le plus court là c'est avec la Coupe du Portugal, ils ont perdu en finale au tir au but contre le Sporting déjà, et la priorité aujourd'hui, et Conceição l'a dit dès le début de saison, c'est le championnat. Et là il y a des matchs importants qui vont arriver.
C'est des données qu'effectivement
mais financièrement, fair play financier oblige aussi, il faut qu'il y ait les pépettes qui rentrent et la Champions ça ramène pas mal d'argent. Donc merci encore Philippe d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Bonne soirée, mon Philippe. Dans quelques instants.
Et à demain.
Merci, à demain, Philippe. Et nous, dans quelques instants. Et vous nous appelez au 32-16 pour en discuter avec nous. On va se plonger dans le huitième de finale de Ligue des Champions.
Fred Hermel.
Entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Et Fredo sera avec nous juste après ça.
RMC, le super football show, l'afterfoot, Nicolas Villas.
Avec Jérôme Roten, avec Daniel Riolo, la Ligue des Champions est de retour, huitième de finale. Allez, City a battu le FC Ball 4-0, 2-2 entre la Juve et Tottenham, avec un doublé d'Higuain notamment, qui a aussi raté d'ailleurs un penalty. Harry Kane et Eriksen ont marqué pour Tottenham. Les 4 buts de City sont l'œuvre de Gundogan deux fois.
C'est un qui bosse maintenant sur la première ligue. Il essaie de mettre les accents et tout.
Et of course, j'ai appris des prononciations, mon gars, des Swansea, des Tottenham,
Tottenham,
Liverpool, face off Porto.
Tu devrais aller sur place. Va sur place à Bournemouth.
Moi, j'aimerais bien y aller.
Ouais.
C'est pas GG, Bournemouth.
Écoute, la prochaine fois, tu prendras ma place, tiens.
tu prendras la mienne, alors. Moi, j'aimerais bien refaire un peu de terrain et tout. Ça me plaît. Même à Bournemouth.
Ah, ben non, moi, il y a des matchs. Non,
mais gars, j'ai commenté à Colmar, moi, si tu veux. À Épinal et tout le tralala, tu vois. C'est pas Bournemouth qui me fait
peur. Colmar, c'est une belle ville.
C'est mignon. Mais le stade, il est moins mignon.
C'est la France profonde, ça, c'est bien. Au moins, t'as découvert.
Après le match, au moins, tu peux aller manger, t'es bien.
C'est vrai que c'est pas mal. Enfin, tout est fermé après.
Ah, c'est sûr qu'à Bournemouth. À Bournemouth ou à
Strasbourg, c'est bien.
Ou à West Bromwich, c'est un peu plus dur d'aller manger après les matchs.
Même Stoke et tout, ça doit être sympa.
Vite, tu repars.
C'est Birmingham.
Hein? Ouais, non, c'est.
C'est un peu la banlieue grande.
Ouais. Ah, c'est très grande banlieue, ouais.
C'est en Angleterre, non?
Ah, tu l'as pas à pied. C'est en Angleterre. La ville à côté, c'est là.
Ah, Birmingham,
Messieurs, demain, il y a donc le huitième de finale aller entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Fred Hermel est là.
Alors, je vais t'apprendre à te prononcer. Trigésima.
Ah, la treizième.
Bah,
pas mal. Bien en espagnol.
C'est au cas où. Bien,
pas que ça fait 2-3
fois que tu balles
avec un sac plastique collé au pantalon.
Non, parce que j'ai des couches
des
très discrètes.
T'as des amphis
présentes. Mais non, mais j'étais always discrète.
C'est fou quand même. C'est fou d'être.
Donc ça se voit pas.
Et on en parle du look. C'est quoi ce béret là, Fredo là?
Bah, il fait froid et j'ai plus de cheveux donc je mets un béret.
Mais ça protège rien du tout du froid ton truc.
Mais tu rigoles! Mais c'est les bérets bas, c'est les mêmes que mon grand-père.
Au moins lui il a un look, il pique pas le look des autres.
Parce que je pique le look des autres, moi.
Je te parlais à toi.
Bah oui, c'est à moi que tu parlais. En
je parlais mais non, mais les mecs, général,
d'accord.
Bah attends, mais je suis parti ce matin à 9h au centre d'entraînement. Je suis rentré à la mi-temps des matchs de ce soir. Là. J'ai pas arrêté, il fait froid. Et mon grand-père avait, vous savez, c'est des vrais bérets basques. Pourtant, on est des ch'tis, mais on mettait ça. Et moi, j'ai toujours mis ça depuis longtemps. Voilà, ah non, mais... faut se protéger.
Mais il te va bien. Hein.
Bah oui, je sais.
Alors, Fredo, elle est comment l'ambiance à Madrid, là, l'approche de ce match face au Paris Saint-Germain?
C'est sympa, là. Ouais, c'est sympa, là. Ça y est, on y est, quoi. C'est vraiment. C'est cette ville, enfin, surtout ce club a un rapport tellement particulier avec la, qu'on appelle ici surtout la Copa d'Europa, parce que c'est pas la Ligue des Champions, ça a commencé dès la première en 56, donc, il y a vraiment un rapport particulier. On a l'impression que c'est une autre équipe, c'est presque un autre sport. Là, c'est comme si, c'est presque comme si le Real n'était pas à 17 points du Barça en Liga, qu'il n'avait pas été éliminé en Coupe d'Europe, en Coupe du Roi. Voilà, c'est un peu... allez, on efface tout et on recommence, quoi. C'est vraiment fou, quoi.
Alors là, sur BFM Sport, on voit défiler les unes de presse hein, de Marca et de As. Alors on a notamment Rajoy, qui fait le président du gouvernement espagnol, qui fait une interview. J'aimerais pas que Neymar vienne à Madrid.
Ouais. Ouais, parce qu'il a... Il
est fan du Real, hein, Rajoy.
En fait. Ah oui. En fait, on a les deux plus hauts personnages de l'État, le chef de l'État, qui est le roi, et supporter reconnu de l'Atlético, et le chef de l'exécutif, qui est le président du gouvernement, lui est fan du Real Madrid. Et il n'aime pas Neymar, mais en fait, il y a comme les gens trouvent que Neymar, il n'a pas la classe pour le Real. En gros, il y a plein de gens qui trouvent que c'est un joueur fabuleux et que ce serait génial de l'avoir, à commencer par le président du Real. Et il y en a d'autres, les gens un peu plus classiques, les plus puristes du Real, trouvent que son style, voilà.
Ceux qui à une époque ne voulaient pas de Ribéry, par exemple.
Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Justement, c'est pas ça. C'est qu'on estime qu'au Real Madrid,
encore plus grave à l'époque.
T'es pas en short dans la neige, tu vois. Ils aiment pas ça, tu vois, les puristes, voilà. Mais la plupart des
non,
gens.
Non, mais il y a toujours eu ça au Real. Il faut le dire. Ça fait aussi partie de l'ADN de ce club. Alors, il y a eu quelques exceptions, mais il y avait aussi que les gars doivent avoir soit une allure, soit une attitude, soit une gueule, soit.
Ribéry, c'est pas vrai, parce que Ribéry a été à deux doigts de signer au Real en 2009. Et rappelle-toi, à l'after, j'avais reçu un message de Florentino Pérez. Et ça s'était pas fait. C'était l'une des. Il était vraiment pas loin. Hein.
Et moi, mais finalement, ouais, mais pas loin, mais il y avait eu des pressions pour dire qu'il avait pas la tête.
Non, les pressions, c'était. Je vais te dire les pressions. J'étais raconté. On peut le dire. Il y a un truc, c'est qu'il y a un certain Onès qui a appelé Florentino Pérez en disant: Florentino, au nom de l'amitié entre deux clubs, ne nous fais pas ça.
Je ne comprends pas. Moi, j'ai entendu.
Moi, je te donne des infos. Alors, dis-moi si tu as parlé avec Onès ou Florentino. Moi, j'en ai parlé avec Florentino à l'époque.
Je sais pas. En tout cas, c'est pas la version déjà que toi tu donnais il y a quelque temps, mais bon.
C'est pas ça du tout. Non, c'est pas ça du tout.
Bah, juste Fredo, pour revenir.
Je parlais à l'époque. Je parlais de
Del Bosque. Avait souffert de ça aussi.
Non, et j'avais faux sur Del Bosque. Finalement, c'était une sale histoire de thunes et je l'ai appris des mots. Nombreux avaient pu faire.
En fait, ils changent tout le temps de trucs.
Mais les sorties Del Bosque, tu vois.
Non, c'est pas son truc. C'est que je continue de me renseigner sur des choses qui sont passées. Je ne donne pas pour acquis les choses.
T'en apprends de nouvelles tous les jours.
Bien sûr, on apprend des choses.
Voilà. Non, mais sinon, ça va bien à Madrid. Là.
Alors tiens, attends, on va écouter d'ailleurs, parce que tu l'as vu, t'étais avec Zizou en conf de presse aujourd'hui avec Zinedine. On lui a posé la question.
Pas avec lui, là.
Non, mais attends, on lui a posé la question, Fredo lui a posé la question de savoir s'il allait avoir la pression. Écoutez la réponse de Zinedine Zidane.
Il n'y a pas de pression particulière. On a préparé notre semaine comme d'habitude. En fait, on a eu 3-4 jours pour préparer ce match. Et puis après, certainement que demain, avant le match, il y aura un peu plus de pression, comme doit avoir un joueur, un entraîneur. Je ne pense pas à mon futur. Je pense simplement au match en fait, qui nous arrive demain. Et je me concentre uniquement sur cette chose-là. Ce qu'on veut voir, par contre, demain, c'est pas un duel Neymar-Ronaldo. C'est tous les gens, en fait, tous les aficionados, ce qu'ils veulent voir, c'est un bon match de football entre Madrid et Paris.
Ah, il est confiant, donc, hein, Zidane. Hein.
C'est pas qu'il est confiant, c'est que ça y est, on y est.
Ouais, il est pas inquiet, du moins, quoi.
Mais il est heureux de jouer ce match, c'est tout. Enfin, c'est-à-dire, c'est quelqu'un
comment
qui.
Comment il serait inquiet ou quoi? C'est-à-dire, c'est l'entraîneur de. Jusqu'à ce qu'il tombe la meilleure équipe du monde.
Parce qu'il a plus que ça à jouer.
La pression, quand t'as connu, Zidane dans sa vie, c'est du petit lait. Et même pour cette équipe et pour les joueurs. Enfin, s'il y a une équipe qui demain a la pression, c'est le PSG. Parce que le PSG a besoin d'un gros coup pour grandir. Parce que le PSG est attendu. Parce que le PSG a fait péter l'oseille cet été et a braqué les projecteurs sur lui. Et maintenant, face à un gros, doit montrer qu'il a pas claqué de l'oseille uniquement pour faire briller la vitrine. T'as le Real, en plus, c'est quelque chose d'habituel pour eux, quoi. D'être d'abord sous le feu des projecteurs.
secteur, d'avoir des gros matchs à jouer,
et d'être favori,
d'être en Ligue des Champions, qu'on attende beaucoup. Alors après, ça les a pas empêchés de rater dans leur histoire.
Sauf que là, ils sont pas favoris, les gars.
Ah bah, attends, il y a une période, ils ont été 8 ans.
Ça les a pas empêchés d'être éliminés par Lyon en 2010 ou en 2010. Oui.
2010.
Voilà, ça les a pas empêchés de Monaco, et c'était des équipes.
En 2004.
Plus petite en moyen que le PSG aujourd'hui, tu vois. Donc le Real a aussi le droit de perdre. On n'est plus tellement habitué à ce qu'ils perdent en Ligue des Champions. Ça, c'est vrai. Il n'y a jamais eu de période d'ailleurs où ils ont été aussi forts sur la durée. Qu'est-ce que tu veux qu'ils aient la pression.
C'est comme si tu vas à Federer et tu dis à Federer,
dis-moi, t'as la pression.
Mais Federer, il dira comme les footeux que la pression fait partie du haut niveau. Et j'irai même plus loin, c'est que cette pression, heureusement qu'elle existe et que les joueurs du Real l'ont et que les joueurs du PSG l'ont aussi, et j'espère qu'elle sera même encore plus forte sur les joueurs du PSG, parce que c'est avec cette pression que tu te transcendes.
C'est la gestion de la pression qui différencie.
Le vrai champion, c'est celui
qui se nourrit de ça,
comme Federer, qui arrive au moment. Normalement, globalement, le sportif lambda, on va dire, il va être meilleur à l'entraînement qu'en match.
Le
vrai champion,
des gestes,
les lignes entre ton niveau en entraînement et en compétition, elles se rejoignent. Et le très grand champion, il arrive à être meilleur en compétition qu'à l'entraînement. Et quand arrivent les grands moments, il est au-dessus de cette ligne-là.
Et puis de toute façon,
le Real, on les attend à ce niveau
demain. De toute façon, qu'est-ce qu'il
a
fait?
Ils vont peut-être se planter.
Alors que le PSG, on ne sait pas s'ils sont capables de faire ça.
Mais le PSG est capable de le faire.
On ne le sait pas.
Tu prends les joueurs individuellement, ils sont capables de le faire. Ils l'ont déjà fait. Ce que je veux dire.
Quand?
Mais si, ils l'ont fait. Ils ont réalisé des gros matchs. On va pas ressortir les gros matchs, mais des matchs contre Barcelone, des matchs.
Tu te rends compte que sur un an.
Non, mais Daniel,
le PSG n'a joué que un gros.
Écoute, pour moi, ça veut rien dire. Aujourd'hui, tous les joueurs du Paris Saint-Germain qui ont gagné autant de titres depuis pas mal de saisons, même si c'est pas la Ligue des Champions, mais il y a d'autres titres. Quand tu gagnes autant, année après année, que le Real gagne
si
autant.
De Daniel Alves, si tu me parles de Neymar, mais ce que je veux dire, ils ont l'habitude. Les autres,
ces joueurs-là, c'est des grands joueurs. Après, pour que tu arrives à faire des exploits en Ligue des Champions et passer les tours et passer ce genre de cap, parce que là, c'est un sacré cap quand même qui s'offre au Paris Saint-Germain.
Pour moi, le grand joueur, c'est celui qui l'a montré dans une grande compétition et qui a appréhendé tous ces éléments. Si tu me dis que Daniel Alves, oui. Si tu me dis que Neymar, qui a porté une équipe du Brésil seul, qui a gagné la Ligue des Champions, mais il n'est pas leader, c'est lui.
Avec le Barça en 2015, il finit meilleur buteur de la Ligue des Champions, Daniel.
Mais de quoi tu me parles? Je suis en train de te dire qu'il est énorme et qu'il est.
Oui, non, vous dites la même chose.
Daniel Alves, Neymar, oui.
Non, non,
les autres.
Mota.
Il est pas là.
Oui, mais il fait partie.
Non, il est pas là.
Ah oui, c'est déjà.
Tu prends Marquinhos, tu prends
Di Maria, me dit Arthur.
Di Maria, oui. Les autres ont tout à prouver.
Mais oui, mais
ce ne sont pas encore de grands joueurs.
Messieurs, accueillons Johan. Il nous reste très peu de temps.
Moi, je doute pas de Cavani.
Je doute pas de Cavani.
On l'a pas prononcé.
Mais il y en a d'autres qui nous ont pas encore.
Messieurs,
totalement montré.
Les gars. Il y a Johan qui nous a appelé au 32-16. Il nous reste peu de temps. Bonsoir, Johan. Merci d'avoir attendu.
Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous les auditeurs.
Alors Johan, est-ce que tu as la pression pour demain, toi, supporter du PSG?
Évidemment, quand on est supporter de Paris, on a un peu de pression, c'est évident, et on rencontre la meilleure équipe, le double tenant du titre. Maintenant, si on prend un peu de recul sur la partie, déjà c'est en deux parties, et le retour il est à la maison. Donc déjà, ça change pas mal de choses par rapport aux expériences passées qu'on a pu connaître, où les retours étaient souvent à l'extérieur. Donc là, c'est quand même un ballotage favorable pour nous. Et là, je suis désolé, mais je rejoins ni Daniel ni Fred. Moi, ce que je vois là, les signaux que je vois depuis Madrid, entre guillemets, c'est vrai que pour moi c'est le Real qui a la pression. Qui joue sa saison sur ce match, contrairement à ce que vous dites,
parce que le PSG joue pas leur saison.
Ils jouent leur projet, ils jouent leur crédibilité, ils jouent
le mercato, la saison, le projet.
Si je peux dire un mot, Neymar et Mbappé, on les a signés combien de temps? 5 ans, pas une saison. On les a signés 5 ans.
Donc ils jouent leur saison.
Ce que veut dire Johan, c'est que si le Paris Saint-Germain peut encore remporter des titres, et on va dire ça sauvera les meubles. C'est ça que veut dire Johan.
Ça va sauver les meubles que le PSG soit champion dans une ligue.
Après, tant pis les titres.
Vas-y Johan.
Si c'est le Real Madrid, c'est Zidane en particulier qui joue Alors évidemment, il a ses doubles titres et tout, très bien, il a gagné des trucs et tout, mais aujourd'hui, maintenant, tout de suite, c'est le Real qui, s'il passe pas les huitièmes, c'est un désastre pour eux. Pour le Paris Saint-Germain,
Attends, je vais t'expliquer. Non, parce que tu poses la question.
C'est un désastre, ils vont prendre une crise, ils vont faire un bon mercato et voilà.
Voilà, c'est une crise énorme de 3 mois et demi jusqu'au mois de juin, et Florentino, il va acheter de nouveaux joueurs. Voilà. La crise va durer 3 mois et demi. On est d'accord.
Non, mais on verra qui l'achète. Pour l'instant, moi, ce que je vois, c'est que Paris, ils ont peut-être fait des gros investissements cet été, mais c'est pas pour être performant dans les 3 mois qui viennent ou les 6 mois qui viennent. C'est pour être performant sur les 5 ans qui viennent. Donc nous, évidemment qu'on a la pression. Évidemment qu'elle est sur les épaules de Paris parce qu'on arrive un petit peu en tant que favori. Entre guillemets, si on s'entend. Mais globalement, aujourd'hui, ceux qui jouent, on n'est pas un petit peu favori, là.
Bah, pas du tout, non. Je vois pas en quoi tu vas l'être. Non, bah,
donc on est la meilleure attaque en poule. Le Real est un de leur poule. Moi je vous écoutais là hier parler, oui, alors en championnat, mais c'est pas que en championnat, si on prend les résultats en Ligue des Champions.
T'as tarté deux fois le Celtic. Arrête un peu, Johan, bon sang.
Non mais
c'est allé à Munich, t'en as pris trois, revoir tout le monde.
Non mais Daniel,
qu'est-ce que t'as
mis?
Non mais Daniel, attaque, mais c'est du vent, tout ça.
Non, là, je suis pas d'accord avec toi. C'est pas du vent quand tu, même si t'as joué des équipes qui sont forcément inférieures au Real Madrid en poule, t'as quand même battu des records. Ce qui est pas le cas de toutes les équipes. Je suis désolé.
Tu vas faire quoi de tes records devant le Real?
Mais attends. Mais je suis pas en train de vous dire que ces records vont faire qu'on va battre le Real Madrid. C'est pas du tout où je veux en venir. C'est qu'aujourd'hui,
pour battre
forcément,
le Real, il faut qu'ils fassent un match qu'ils ont jamais fait.
Mais quand tu regardes, mais le Real, tu les as vus jouer depuis le début de l'année. Tu vois qu'il y a quand même beaucoup de lacunes. Oui. Aujourd'hui, les forces en présence me dit pas que le Real est favori par rapport au Paris Saint-Germain. On est d'accord.
C'est le tenant du titre. Il y a des super joueurs dans
l'équipe.
Le PSG n'a pas de référence.
Adios, à demain.
Merci, Fredo.
Allez au dodo, hein.
Dors bien, Fredo. Demain.
Prochain débat.
Bisous mon Fredo, à demain. Demain il va falloir dormir parce que demain l'after va
durer une heure.
Jusqu'à 1h du mat. Et s'en suivra parce que c'est pas terminé. Les Jeux Olympiques.
Et on commande derrière.
Jusqu'à 4h30 du matin, bien entendu, avec voilà.
Jérôme Irès parce que le ski il est fort.
Tessa Worley. En direct.
Merci,
eh ben ouais,
Jérôme,
elle est là demain, cette nuit.
Merci.
Et toi, tu
Arthur
vas venir avec moi.
À toutes les équipes techniques qui nous ont aidé à préparer cette émission. Bah, merci à Flavien Zolkowski également. Merci à Antoine Varnier. Voilà, alors juste les mecs, supporters du PSG. Tout à l'heure, je suis allé sur son compte Twitter parce que c'était ouvert. J'ai dit, allez, le Real pour demain. C'était juste pour le faire chier, mais c'est vraiment moi qui ai tweeté parce que vous êtes en train de le pourrir, le pauvre.
Continue à le pourrir.
C'est vraiment moi qui l'ai fait.
Continue à le pourrir parce qu'il veut.
C'est une vanne de merde.
Il veut que le Real gagne.
Laissez Antoine Varnier tranquille. Non, je vous jure,
pourrissez-le.
Les mecs, ils me trouvent tellement sympa qu'ils se disent, mais non, t'as pas fait ça, Nico.
Ouais, mais en plus, c'est gentil. Hein. Pourquoi tu le couvres comme ça? Laisse-le.
T'es pas au courant que c'est pas permis le second degré sur Twitter?
Allez, merci à tous. Bisous. Ciao.
C'est le Super Football Show, l'After Foot.